La circulation, une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec qui vous rappelle de déremiser votre véhicule en ligne pour éviter le trafic. Déremiser dans sa clique, c'est pratique.
Belle. J'essaye de starter ce show-là avec un peu de décorum.
On n'a pas de décorum, pas Denis, capable. Arrête, là.
Gravel dans le retour, un show authentique.
Elle nous amène tout le temps dans la vulgarité.
Terrible.
Ouais, c'est pas faux.
Non, dans la chaque vérité, fois. C'est différent.
C'est le retour de Boulevard 102.1 avec Denis, Véro et Audrey.
Merci d'être des nôtres dans le retour. On est accrochés avec vous autres jusqu'à 18h. Évidemment, ben, s'il y a quoi que ce soit à signaler, des sujets sur lesquels vous voulez qu'on rebondisse, du positif, du négatif, go, 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 418-971-1021. C'est le même numéro par les textos pour nous signaler ce qui se passe sur les routes. Et d'ailleurs, là, il y a quelques ralentissements et quelques trucs là, qui se doivent d'être partagés. Audrey?
Il y a un accident en ce moment avec les services d'urgence sur place sur Robert Bourassa, direction nord, ce qui mène à la fermeture de la sortie pour le boulevard Wilfrid Hamel. C'est peut-être la première chose à vous mentionner. Évidemment que ça crée pas mal de tort un peu partout autour. Là, si je regarde sur la carte, Capitale, direction est, justement à la hauteur de Robert Bourassa, super difficile de circuler en ce moment. Si vous êtes sur Henri IV Nord, dans le coin de Val-Bélair, entre Sainte-Geneviève et l'avenue Industrielle, super difficile de circuler également. Des problèmes à l'entrée des ponts que vous arriviez de Duplessis ou d'Henri IV, ça commence à ralentir à la hauteur de chemin Sainte-Foy jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Et la 20 direction ouest, c'est entre la route du président Kennedy et Taniata que ça se passe. Je vais prendre le temps de vous rappeler rapidement aussi que la traverse Québec-Lévis offre un service entièrement piéton jusqu'au 16 avril prochain. Il y a une modernisation des infrastructures.
La campagne est encore jeune, 3 jours à peine, et déjà, il y a plein de choses à raconter. C'est une campagne électorale qui débute d'un océan à l'autre avec une majorité de voteurs qui s'enlignent pour voter pour Mark Carney et le gouvernement libéral. Avec une avance qui fait en sorte que même quelques analystes qui ont dit que c'était probablement déjà gagné pour Mark Carney et pour les libéraux. Pas tous, mais quelques-uns. Mais depuis le début de la campagne, une campagne où pour le tiers des Canadiens, la question de l'urne, c'est de savoir qui va être le meilleur premier ministre pour gérer Donald Trump. C'est mal parti pour Mark Carney.
On est toujours 4 en plus. Là.
Effectivement. Puis à date, on a l'impression qu'à chaque jour, il y a une histoire qui le fait mal paraître. À tout le moins au Québec et peut-être aujourd'hui dans le reste du Canada avec l'histoire des abris fiscaux et ainsi de suite. Est-ce qu'une gaffe par jour éloigne le voteur pour toujours? On va poser la question à Sandra Aubé qui est stratège politique. Salut Sandra.
Salut, comment ça va?
Ça va bien toi?
Ça va bien? Vous n'êtes pas déjà tanné là, de la campagne?
Pas encore, non. On est divertis jusqu'à maintenant, c'est vrai.
Est-ce que tu es d'accord pour dire que le début de campagne de Mark Carney, c'est... est-ce qu'abominable est un trop gros mot?
On va dire difficile.
Difficile, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, laborieux. Je pense qu'on peut s'entendre sur difficile et laborieux. Puis pour avoir navigué dans des sphères politiques, puis de la préparation de campagne... avoir les sondages, avoir comment M. Carney avec les libéraux est en tête, je suis pas surprise de voir, il y a différentes choses, comme de voir que les partis d'opposition ou les autres partis mettent tous M. Carney, tu sais, il est au cœur de la cible, puis c'est vers lui que les attaques sont dirigées. En même temps, il s'auto-pelure de bananise.
Oui.
C'est ça, c'est un peu ça la problématique là, qu'on voit cette semaine. Ils ont leur propre agenda, mais comme ils se font des petites jambettes eux-mêmes, puis ça fait mal.
Commençons par l'histoire du débat face-à-face de TVA. Ouais. Est-ce que ça aurait été plus simple et plus honnête de dire « Mon français n'est pas à point, je travaille très fort là-dessus, puis à un moment donné, je vais être capable de les faire, mais présentement, mon français est juste pas assez bon. » C'est un signe de faiblesse par rapport à une des deux langues officielles au pays, mais au moins, ça a le mérite d'être vrai.
Bien, je pense que c'est le temps que tu viennes à Ottawa. Honnêtement, il y a un point là, puis moi, je trouve que c'est super important, l'authenticité puis l'intégrité en politique.
Ouais.
Fait qu'on a l'impression qu'on a tourné autour du pot là-dessus. Je pense qu'on peut débattre sur la question du 75 000 aussi. Là, je pense que tout le monde, honnêtement, d'un côté comme de l'autre, il y a de la stratégie politique autour de ça, mais c'est sûr que quand on regarde au niveau de François Blanchette qui manie le verre, verbes de façon admirable en français. On a M. Poilievre qui est quand même, sans être parfait, très, très, très fluent, oui, très fluide en français. Et M. Singh qui peut aussi mm-hmm. débattre en français avec peut-être un peu moins d'aisance, mais tout à fait très bien. Et là, on arrive avec M. Carney. Puis c'est vrai que, comme c'est ça la réalité, comme son français est moins poli et moins agile que celui des autres. Fait que moi, je pense qu'il y a absolument du mérite à venir dire comme que je ne prendrai pas dans ce format-là. Mais c'est sûr que d'un côté ou de l'autre, ça allait soulever des frustrations, puis un peu lire des personnes qui en bénéficieraient. C'est important qu'ils débattent en français. C'est important pour les Québécois, les francophones, d'entendre ça. C'est sûr que le format qui était proposé par TVA est un format populaire, ouais, est un format intéressant.
Dynamique.
Les stratèges au QG des libéraux ont fait un choix différent. En même temps, je sais qu'il y a beaucoup de discussions, pas juste chez les libéraux, là, au niveau du 75 000. Ça a soulevé beaucoup de questions. Ça fait aussi beaucoup de sourcils.
Il y a un point à faire avec ça, Sandra, mais il faut être solidaire. Si tous les partis disent la même chose, c'est la seule façon de passer, ouais, le message dans, ouais, un monde de perception comme la politique. Ouais. Parce que même, ouais, si c'est le bon message, s'il y en a juste un qui le dit, il va passer pour un peureux qui veut pas y aller.
Oui, puis tu sais, dans ce sens-là, les libéraux se sont fait en mauvais français, on dit framer. Tu sais, c'est ça. Il y avait pas de bonne réponse. Comme s'il allait là, ça allait être difficile. Puis s'il allait pas, puis qu'on donnait une excuse, moi j'aurais été pour l'authenticité, l'intégrité.
Avec l'avance dans les sondages, puis on nous le dit là, de la manière dont ça fonctionne le vote, l'important c'est de gagner l'Ontario. En fait, l'important c'est carrément la grande région de Toronto. Est-ce que les libéraux sont comme juste, hey, c'est pas grave les scandales au Québec, là, ça changera rien, qu'ils aillent voter Bloc ou qu'ils aillent voter Parti conservateur. De toute manière, nous, notre électorat, on va le chercher de toute manière ailleurs dans les sondages.
Non, je dirais que le Québec joue un rôle important. Le Québec, comme d'autres régions à travers le pays, mais il y a beaucoup de sièges là, au Québec. Il y a 78 circonscriptions sur 343 dans le nouveau redécoupage électoral. J'ai fait le calcul, là, c'est une circonscription sur 4.3 points quelque chose, okay, qui sont au Québec. Donc, c'est quand même comme c'est un gros poids c'est un bon poids par rapport au Canada. Et on peut aller chercher une majorité ou ne pas prendre soin du Québec. Ça peut vouloir dire une minorité. Ça peut vouloir dire ne pas gagner son élection aussi, perdre des sièges. Puis honnêtement, en 2021, comme il y avait eu, c'est bien en 2021 qu'il y avait eu la question au débat là, au niveau de la législation au Québec, ça avait fait déraper complètement la campagne. Ouais. Puis c'est au Québec qu'on a perdu des sièges, que le gouvernement a perdu des sièges à ce moment-là. Le Québec est super important, il faut en prendre soin.
Se tromper sur le nom d'une candidate, c'est une chose. Se tromper de tuerie, c'est next level un petit peu, puis je veux pas faire d'humour de mauvais goût là-dessus, mais il y a des gaffes qui sont plus faciles à rattraper que d'autres. Celle-là, j'ai l'impression qu'elle risque de laisser des traces. Puis comment on fait? T'sais, on cumule, veut pas, au Québec, ça fait quelques-unes en quelques jours.
Puis on présente une candidate vedette en plus de ça, sur qui on compte, ouais, beaucoup.
La campagne est encore jeune. Comment on se rattrape de tout ça? Comment on se replace dans tout ça?
Bien, au moins, ce sera pour eux, pour les libéraux, ce sera la beauté que la campagne est encore jeune. Donc, ils ont l'occasion, ils sont hauts dans les sondages. Ouais. S'il n'y a pas de bourde comme ça à chaque jour de la campagne, ils devraient être capables de rattraper. Maintenant, il n'y a rien qui nous dit que ce ne sera pas le cas. Donc, il faudra voir et peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres accrochages qui vont arriver. Mais moi aussi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben voyons donc. Comme un, dans la vie, moi, je suis quelqu'un qui, je ne suis pas bonne avec les noms, OK? Comme je me trompe souvent, je rebaptise les gens, comme c'est très malheureux. Je suis bonne avec les chiffres, je suis pas bonne avec les noms. C'est la vie.
Veux-tu mon truc?
Vas-y.
J'appelle tout le monde man. Je me trompe jamais.
Ouais, mais tu peux pas faire ça en politique.
moi, j'appelle tout le monde votre excellence.
Ah, ben voilà.
Ça, c'est bon, c'est plus diplomatique.
Oui, beaucoup plus.
C'est ce qu'on débarque d'Ottawa. Mais au niveau de la tuerie, je suis d'accord. C'est quelque chose qui a tellement frappé le Québec,
ouais.
qui a tellement ébranlé, qui nous a tellement, je dirais, qui a encadré notre façon de penser aussi par rapport aux armes, par rapport aux femmes, par rapport comme le volet féministe, mais juste comme comment est-ce qu'on protège nos institutions. Puis je pense que ça continue de perdurer aujourd'hui. Donc ça, pour moi, tu sais, quand c'est un candidat qui cherche ou que son équipe cherche à montrer que, tu sais, comme non, comme on connaît quand même le Québec, comme moi. Là, c'est là où je vois une déconnexion et je me dis que c'est important que, comme tout le monde, ils ont tous des équipes, ils doivent tous être bien briefés. Fait comme qu'est-ce qui est arrivé là, pour qu'on en arrive à quelque chose comme ça et en espérant qu'ils apprennent leur leçon de ça. Comme ça va, comme c'est difficile une campagne, c'est intense, mais ça, là, comme ça, c'est pour moi, j'ai comme ouf, ça, c'en est une qui va rester. Puis honnêtement, M. Blanchet peut faire bien du millage là-dessus. Là.
Puis ça va être dur de faire décoller ça de Mark Carney parce qu'il y a déjà une certaine accumulation. Ça va être facile de le cibler en disant Mark Carney ne connaît pas le Québec. Il ne connaît pas ouais. la réalité des Québécois. C'est pour ça qu'il ne veut pas aller à TVA. C'est pour ça qu'il se trompe quand il parle de choses importantes.
C'est pour ça qu'il fait des pubs avec Mike Myers, mais qu'il ne parle pas de rien du Québec.
En même temps, au moins, c'est excusé. Fait que oui, ça, au moins, c'est la chose. Comme oui. il a fait comme, OK, comme,
j'ai pas fait
ça
n'a
pas bien été. Mm-hmm. J'ai merdé. Puis comme, voici comment je corrige. Puis aussi, je pense, l'autre point, tu sais, c'est comme si on s'attend tout le temps à ce que quelqu'un connaisse tout de partout. Encore une fois, pour moi, comme authenticité, intégrité, comme j'arrive là-dedans comme avec humilité. Mais c'est sûr que, tu sais, sur le nom de ta candidate, bon, tu peux faire un lapsus. Mais comme ça, sur la tragédie, sur la tuerie, comme, s'il vous plaît, là, comme.
Un peu de rigueur, oui.
Parlons de l'histoire d'aujourd'hui. Si tu le veux bien, Sandra, puis cette histoire-là, ben, elle résonne d'un océan à l'autre. Puis tu parles d'intégrité puis d'authenticité. Quand on gère des fonds d'investissement d'une valeur de 25 milliards, est-ce que l'authenticité puis l'intégrité, c'est de dire « Ouais, c'est gossant, là, mais c'est ma job de trouver des paradis fiscaux. C'était ma job de faire ça. » Puis en même temps, je sais que ça va à l'encontre complètement de « T'es le premier ministre du Canada, faut que tout le monde paye leurs impôts et ainsi de suite. » Puis il y a une discrétion aussi qui est gardée sur ses revenus, son salaire et ainsi de suite. Il a le droit, c'est pas un élu. Encore une fois, ça donne l'impression d'un manque de transparence.
Oui, ben, je sais qu'il a répondu à des questions aujourd'hui, puis je peux pas répondre, comme je pense, comme tout le monde, là, sur le détail de, comme c'était quoi exactement ces investissements-là. Je sais qu'il a répondu que les impôts qui devaient être payés au Canada avaient été payés au Canada. Puis là, on entre un peu dans une guerre de, comme, tu sais, il a dit ci, ils ont dit ça. Puis ça, c'est vraiment très classique en campagne électorale. Je pense que, encore une fois, dans ce cas-là, puis ce que je dis souvent, c'est que les gens sont intelligents. Là, quand on prend 2 minutes pour leur expliquer, voici comment ça fonctionnait, voici ce qu'on a fait, c'est dans les règles. Comme, peut-être que c'est pas dans les règles, là, je le sais pas. Puis si c'est le cas, comme va falloir l'adresser, va falloir en parler.
Il faudrait montrer les papiers, c'est ça.
Parce que ça va ressortir. Comme s'il y a des choses qui ont été faites, puis qui n'étaient pas faites dans les règles de l'art, ou du moins dans les règles de l'art pour quelqu'un qui veut devenir premier ministre, bien, ça va sortir. Tu peux jamais cacher ces choses-là, ça va tout le temps sortir. Puis il y a des petites équipes chez les conservateurs, chez les bloquistes, chez les néo-démocrates qui font ça à temps plein chercher ce genre de choses-là.
C'est une campagne qui est très courte et Mark Carney, on s'en cache pas, on le vend comme un gestionnaire, il se vend comme un gestionnaire. Peut-être qu'une erreur à éviter dans le reste de la campagne, c'est de vouloir trop en faire pour compenser peut-être les erreurs et les manques qu'il y a eu. Puis moi, l'image que je vais tout le temps me souvenir, c'est Stéphane Dion qui jouait au basketball. Je veux dire, il y a des gens qui, des fois,
c'est tellement plus naturel.
Tu sais, Stéphane Dion, c'était un intellectuel, c'était pas un homme du peuple. Puis quand il essayait de faire peuple, ça faisait pire que ben. Je vois mal Mark Carney arriver puis chanter à Wingahan à soirée canadienne avec une espèce de ceinture fléchée. Oui, je connais la culture québécoise, gang. Là, tu sais, ça va être j'ai l'impression que ça va être des écueils à éviter vu que la campagne est très courte, là.
Ouais, en effet. Comme moi non plus, je le verrai pas. Puis je pense que c'est bon de rester pour lui dans son cadre. D'ailleurs, j'ai beaucoup entendu parler, puis je suis curieuse si de votre côté c'est le cas aussi, mais au niveau des baisses d'impôts qui ont été annoncées, comme les conservateurs ont annoncé des baisses d'impôts, les libéraux en ont annoncé, puis les gens je connais des gens qui vont en bénéficier, ils sont comme OK, comme cool, mais on n'a pas un enjeu avec nos finances publiques.
Ouais, c'est pas des pertes d'argent ça pour le gouvernement?
Fait qu'on veut en redonner. Puis pour comme politiquement, là, comme moi, je me reprojette en 2015, quand les libéraux se sont fait élire, ils avaient promis une baisse d'impôts, ils ont donné la baisse d'impôts, puis personne n'en a jamais reparlé, puis il n'y a jamais eu de gain politique
C'est
là-dessus.
vrai.
Fait que je suis comme peut-être. Alors, je pense que les gens présentement, comme un, bon, il y a beaucoup de monde qui a de la misère, là, comme l'épicerie, ça coûte une fortune, le logement coûte une fortune, comme tout coûte une fortune. Mais la question des finances publiques, puis du resserrement, elle est super importante. Puis je pense que, comme honnêtement, on attend encore de voir ça, on attend d'avoir les détails, comment est-ce qu'on va payer toute cette belle patente-là. Puis même chose aussi au niveau des tarifs, c'est supposé être la question de l'urne. J'ai pas l'impression
Personne n'en
que.
parle, hein?
Le leader, comme la personne qui va nous guider, qui va guider nos destinées à travers ça, là, comme on n'est pas en train de le voir présentement. Fait qu'un peu plus de leadership, s'il vous plaît.
Je fais partie des gens qui restent sur leur appétit. Au début de la semaine, on a eu une discussion là-dessus, la question de l'urne. Puis on voit que pour le tiers des Canadiens, c'est un peu la réflexion que j'ai, à savoir, on essaye de trouver c'est qui va être le bon premier ministre pour gérer Donald Trump. Puis jusqu'à date, je trouve que c'est un sujet qu'on évite. Puis tout le monde est coupable de ça, je
On
trouve.
Dirait une campagne électorale tout à fait normale.
Normal, ouais.
Alors
oui.
Que les enjeux sont en fait, oui. Les risques sont imminents. Puis on vit avec cette pression-là depuis des semaines. Et c'est comme si, hey, on va mettre ça sur pause le temps d'une élection.
Oui, mais je suis vraiment d'accord. C'est absolument au cœur des réflexions que je fais. Comme je pense que le monde a envie, en tout cas moi, je vais parler pour moi, j'ai envie de voir du leadership. J'ai envie de voir des gens qui ont un plan, justement parce que, comme clairement, ça va pas dans le monde. Clairement, notre voisin, ça nous affecte pour minimalement 3 ans et demi, 4 ans, plus. On ne sait pas c'est quoi qu'on va avoir après. Prenons notre destinée en main. C'était le message avant la campagne. Ce serait le fun que ce soit encore le message parce que ça va pas changer après, là.
On a parlé beaucoup de Mark Carney et du Parti libéral. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la mutation de Pierre Poilievre qui se poursuit. Après un Canada éclaté, on a un Canada uni. Après un Pierre Poilievre qui était à la limite de pas nécessairement colérique, là, mais tu sais, qui avait
Il était en
pas
guerre.
Mal toujours en guerre et un peu
Contre
fâché.
Justin Trudeau.
Maintenant, on a un Pierre Poilievre qui est souriant, sympathique, parce qu'on veut donc ben pas qu'il ait l'air d'un Donald Trump.
C'est de la stratégie,
Trouves-tu
ça.
Que c'est une métamorphose qui colle ou le contraste est trop grand sur une courte période?
Ben, ça fait pas assez de jours pour le voir, si ça
Si naturel en vient pas.
Il n'y a pas de médias sur son bus de campagne, donc on ne peut pas savoir si le sourire est toujours là. Je trouve ça intéressant de le voir avec sa famille. C'est sûr que ça adoucit une image qui est autrement, généralement plutôt abrasive. On pense à sa publicité récemment où, dans le fond, il s'excusait pas, il faisait juste pleinement assumer qui il est. C'est un changement. C'est un changement de paradigme. Je pense que c'en est un que certaines personnes auraient aimé voir plus tôt, probablement, parce qu'il a tellement maintenu son image, justement, de combattant, puis de comme le Canada est brisé, que c'est quelque chose qui a collé malgré son changement d'image visuelle.
L'ironie, c'est que c'est lui qui a commencé avant tout le monde, à grand renfort de campagne publicitaire et ainsi de suite, au point où on connaissait à peu près ses publicités par cœur. Donc, évidemment, quand tu changes de cap après ça dans une campagne électorale qui est courte, il est parti du gars qui est en avance au gars qui avait du retard à rattraper parce que là, on ne vit plus dans le même monde qu'en 2024. Puis son objectif de campagne a changé parce que tous nos objectifs ont changé au pays. C'est sûr que c'est pas beaucoup de temps pour vendre d'autres choses que ce qu'il a vendu dans la dernière année et demie, là.
Oui, puis ce qu'on a cherché à voir, c'est Pierre Poilievre, le premier ministre du Canada. On a cherché à voir quelqu'un de premier ministrable, ce qu'on n'a pas. Peut-être que certains gens l'ont vu. Moi, je dirais que je ne le voyais pas pendant longtemps. Je voyais quelqu'un qui combattait et peut-être qui divisait davantage. Et là, on arrive avec ça. Peut-être qu'il est un peu trop tard pour faire ce pivot-là, en effet. Mais peut-être que ça collera aussi. En effet, comme en jour 4 d'une campagne courte, en même temps, c'est jour 4, moi, j'ai l'impression que ça fait 10 mois qu'on est en campagne.
T'as raison.
Donc, 4 jours sont une éternité. Donc, beaucoup de choses peuvent sortir, mais quand on voit les sondages, ce sera intéressant de voir, suivant toute la saga du débat, comment ça va affecter le vote au Québec, parce que ça ne percole pas dans le reste du pays. Le reste du pays est ailleurs. Et de voir comment est-ce que le Bloc québécois a beaucoup à gagner de tout ce qui se passe présentement. Ils avaient perdu beaucoup de points dans les intentions de vote. Ils pourraient remonter s'ils sont habiles et ils pourraient avoir une balance du pouvoir éventuellement, comme si on arrivait avec un gouvernement minoritaire.
On a une perception que, par contre, pour la tête du pays, c'est une bataille à deux. C'est une bataille entre les libéraux et les conservateurs. Tu parlais de Poilievre qui a peut-être fait ces changements-là trop tard. Est-ce qu'actuellement, on assiste au dernier tour de piste du NPD parce que Jack Mitzink, lui, a décidé d'aller trop tard en élection?
Monsieur Singh a cherché plusieurs... On se rappellera, OK, retour en arrière, septembre dernier, ouais. Il déchire son entente avec les libéraux. Uh-huh. Et à ce moment-là, on se disait, OK, comme est-ce que c'est le début du positionnement des néo-démocrates par rapport à une élection? On savait par contre qu'ils avaient des défis de financement, donc c'était pas prêt à aller en élection, ça coûte cher. Uh-huh. Donc pas prêt à déclencher, mais ils voulaient créer une distance. Mais là, après ça, on a eu l'espèce de danse de « Ouh, on se rapproche des libéraux parce que peut-être que finalement on va continuer à les soutenir, puis ouh, non, finalement on veut pas. » C'est comme un pas en avant, deux pas en arrière, comme un pas sur le côté. Donc, ils ont toujours maintenu cette proximité-là. Ils n'ont pas réussi à recréer de momentum. Je pense que Monsieur Singh, tout en étant très sympathique, il n'a pas réussi à galvaniser les foules, alors qu'il pourrait absolument comme capitaliser sur du vote davantage à gauche, davantage progressiste. Là, le vote progressiste ne voit pas en Monsieur Singh un leader qui pourrait tenir tête. Il ne fait pas partie, effectivement, de cette course pour qui pourrait être un premier ministre. Alors, à ce moment-là, je pense que la question, c'est est-ce qu'on veut être honnête, encore une fois, comme honnêteté et intégrité en politique, puis faire comme moi, j'y vais pour être l'opposition officielle. T'sais, peut-être que c'est là où ils pourraient faire un repositionnement, mais ils sont tellement bas dans les sondages, ce serait extrêmement difficile. Il faudrait qu'ils arrivent. Je ne peux même pas imaginer qu'est-ce qui devrait arriver pour qu'il y ait un revirement de situation et qu'on ait faire beaucoup de gains. À ce moment-ci, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs pertes au niveau des néo-démocrates.
On continue de suivre ça tous ensemble. Merci beaucoup, Sandra.
Merci, au revoir.
Bye-bye. Sandra Aubé, stratège politique sur les premiers jours déjà rocambolesques de
fou,
la campagne électorale.
Ben oui. Je pense que ça dure juste 37 jours.
Oui, parce que ça presse de savoir qui va avoir les rênes du pays pour la prochaine année puis toutes les prochaines négociations d'une façon ou d'une autre. Mais je pense que la bonne décision, c'était de faire la campagne la plus courte possible.
Mais elle a tellement raison. Actuellement, on ne voit pas de leader. C'est quand même assez capoté.
Après en avoir autant parlé, on est rentré dans des programmes de campagne.
Oh, c'est pépère à l'os.
Très standard. Pépère. T'as raison.
C'est pépère, c'est peureux, c'est pas audacieux, c'est convenu, c'est prévisible. Il n'y a aucune surprise.
Ça veut-tu dire qu'on fait cette campagne-là pour les gens âgés qui vont voter, qui ont besoin de
Je ne sais pas.
C'est eux autres qui votent le plus, on le sait.
Et pourtant, on est à la recherche actuellement d'une solution pour l'avenir du pays, puis on dirait que c'est comme si on ne voulait pas nous interpeller.
À date, pour répondre à ta question que tu m'as posée plus tôt dans l'émission, Audrey, là, à date des érections politiques,
c'est assez tranquille.
Ouais.
Ça lève pas encore.
À date, je suis pas mal assis sur mes deux mains là, pour aller voter. 16h53, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour.